France Culture. France Culture, de cause à effet, Aurélie Luneau.
Scientifique de renom, primatologue d'origine italienne, elle voue sa vie aux gorilles depuis 25 ans et ses recherches révolutionnent nos connaissances et considérations sur ces grands singes dont nous avons encore beaucoup à apprendre. Bonjour Shelly Massy.
Bonjour Aurélie.
Ravie de vous accueillir dans le studio. Vous êtes maîtresse de conférences au Muséum National d'Histoire Naturelle et au Musée de l'Homme. Et on vous doit ce livre intitulé Queen Kong, édité chez Albin Michel, qui nous révèle une toute autre image de la communauté gorille. Merci d'être avec nous pour cette émission Grand Portrait.
Merci beaucoup pour cette invitation, avec grand plaisir, je suis là.
Shelly Massy, ou la passion gorille, tribulation et secret d'une primatologue au cœur de la jungle, c'est le sujet du magazine de l'environnement de France Culture. Bienvenue à vous toutes et tous, émission en partenariat avec le journal Le Monde, préparée par Célestine Babinet, avec la collaboration d'Aurélie Marsay, celle de Vanessa Chang, Anne Delaveau de l'INA et Christine Anzano de la documentation de Radio France. Une belle équipe, émission réalisée là encore par Alexandra Malka, que je salue aussi à la technique. Aujourd'hui, Noé Chaban. Là des vocalises de gorilles chez Limassi. Est-ce que ça résonne pour vous? Ce ne sont pas forcément ceux que vous suivez sur le terrain d'ailleurs.
Oui, ce sont des gorilles de montagne probablement, mais ça rassemble beaucoup. Il y avait quelqu'un qui s'était fâché avec un autre et faisait Et après il y avait au tout dernier le frappement des poitrines et aussi les grognements typiques des gorilles qui sont pour rester en contact l'un avec les autres, les différents membres du groupe.
Nous allons avoir l'occasion d'entrer dans leur langage, justement, parce qu'il y a 37 sons qui ont été identifiés. Parlez-nous peut-être tout d'abord aussi de vous et de votre plongée dans ce monde-là, dans cette profession aussi, primatologue, spécialiste des gorilles. Avoir un rêve dans le tiroir, c'est une expression italienne, mais qui veut dire quoi dans votre cas, Shelly Massy?
Oui, très bonne question. Alors oui, effectivement, depuis j'étais petite, la chose bizarre, c'est que je suis née avec la passion des animaux, mais je détestais les primates parce que j'ai regardé beaucoup de documentaires et je voyais que les primates étaient un peu... Je voyais le côté méchant de l'homme chez les primates. C'était l'époque des documentaires sur les chimpanzés qui faisaient la guerre. Donc, ils me semblaient trop humains. Et donc, j'adorais les grands mammifères, mais pas les primates du tout. Jusqu'à un jour... Et j'avais 8 ans et je suis tombée sur un documentaire dans lequel il y avait deux gorilles de montagne qui sont beaucoup plus étudiés des gorilles de plaine, on va voir que j'étudie. Et les deux étaient totalement capturés par la présence d'un caméléon sur un arbuste. Et tous les deux les regardaient comme ça. Déjà, j'étais totalement capturée moi-même par un animal qui était si sensible d'observer un autre animal. Et après, un de deux a commencé à caresser le caméléon comme ça, tout au long du profil jusqu'à la queue. Et là, je suis tombée amoureuse avec ces animaux parce que, effectivement, le côté positif, la sensibilité qui les rapproche à l'homme, c'était ça qui m'a fait devenir amoureuse de eux. Et ça, donc, j'avais 8 ans, ce rêve dans les tiroirs, on dit en italien, c'est le rêve qu'on pense qu'on ne va jamais réaliser dans la vie et qui est là, dans les tiroirs, on le garde bien comme ça. Et jusqu'à j'ai eu l'opportunité à l'université, j'ai fait biologie à la faculté et j'ai suivi le seul examen sur les animaux sauvages, mais c'était la faune européenne. Mais ce professeur-là, Luigi Boitani de la Sapienza, il a à un certain moment nominé Chloé Cipolletta, qui était la responsable du projet d'habituation des gorilles à Zangazanga.
Une de ses anciennes étudiantes.
Une de ses anciennes étudiantes, oui. Et donc, il l'a nominée, elle vivait en République centrafricaine pour habituer les gorilles de l'Ouest, pour faire l'écotourisme, pour le WWF, de la RCA. Et donc, je l'ai contactée pour essayer de voir si je pouvais partir un an pour ma l'ancien DOA, c'était, on l'appelle thèse en italien, c'était la thèse de un an pour l'ancien DOA. Et donc j'ai commencé avec ça et je suis tombée amoureuse avec Zangasanga, les gorilles de Zangasanga, et donc j'ai jamais arrêté en fait.
Et prête à tout laisser, hein, Shelly Massy, y compris votre jument avec laquelle vous connaissiez quelques succès en saut d'obstacles au niveau national à l'époque quand même.
Ouais, oui, c'est vrai que j'aurais jamais laissé quitter ma jument qui a été comme ma fille, je l'ai élevée depuis elle était petite, et aussi ma famille, j'étais très attachée à ma famille, et donc aujourd'hui je le regarde plutôt comme, oui, c'est une passion, mais c'était plutôt une vocation, parce que je n'aurais jamais laissé elle et aussi mon copain de l'époque avec qui j'étais depuis longtemps.
Donc, dans ces années 2000, on a peu de connaissances de ces gorilles des plaines par rapport aux gorilles des montagnes. Pourquoi ?
Oui, alors c'est vrai. Au début, effectivement, j'étais un peu déçue de partir étudier les gorilles de l'Ouest, parce que personne ne les connaissait et tout le monde, ce qu'on voyait dans les documentaires, c'était les gorilles des montagnes. Et pourquoi? Parce que grâce à Dian Fossey, qui les a rendus célèbres, qui l'a commencé à étudier dans les années 60, et aussi parce qu'ils sont beaucoup plus faciles à être approchés et à être habitués. On dit l'habituation, c'est le processus qui prend très longtemps pour habituer une famille sauvage à notre présence et pour pouvoir les observer pour la recherche, mais aussi pour pouvoir aller visiter, dans les cas du WWF, de la RCA, pour l'écotourisme, pour avoir les touristes qui viennent et à regarder les gorilles. Et donc, c'était très difficile de les habituer, d'habituer les gorilles de l'Ouest. Et donc, toutes nos connaissances étaient vraiment basées sur les gorilles des montagnes, qui en réalité sont très différents des gorilles de l'Ouest. Pourquoi ? Parce que les gorilles des montagnes vivent dans des montagnes où il n'y a pas beaucoup d'arbres, il n'y a pas beaucoup de fruits à manger. Et donc, par contre, les gorilles de l'Ouest vivent dans les forêts des plaines, qui sont très denses, et donc c'est difficile de les approcher. Par contre, la pente peut nous aider à les approcher sans les effrayer, trop effrayer. Et par contre, en forêt des plaines, il y a des arbres qui montent jusqu'à 60 mètres de hauteur. Les gorilles montent sous les arbres, donc sont beaucoup plus arboricoles, beaucoup plus frugivores. Et ça change toute leur socialité parce que les fruits sont monopolisables. Ça veut dire que le doigt argenté, qui est le chef du groupe, il peut arriver à un arbre, prendre tous les fruits à côté de eux-mêmes et les autres restent sans rien manger. Donc, sont très différents. Et à l'époque, on pensait que tout ce qu'on observait chez les gorilles des montagnes était applicable aux gorilles de l'Ouest.
Et oui, et pas du tout. Hein. Alors, je vous propose, puisque vous avez mentionné Dian Fossey, d'écouter cet extrait de reportage diffusé sur Antenne 2 le 26 décembre 2015. Je rappelle que Dian Fossey, c'était cette primatologue américaine qui a été assassinée en décembre 1985 à l'âge de 53 ans.
La première fois que je l'ai rencontrée, j'ai remarqué que c'était une femme de caractère. Ce n'était pas facile de travailler avec elle. Mais c'est grâce à son caractère qu'elle a fait ce qu'elle a fait ici. Elle a vraiment consacré sa vie aux gorilles. Ce n'était pas évident de lutter contre les braconniers à l'époque, parce que même les gardes forestiers n'y arrivaient pas, alors que pourtant, ils étaient armés.
Car à l'époque, les gorilles sont en grand danger. Et c'est Dian Fossey qui lance la lutte contre les braconniers. Elle choisit ses hommes, les formes, les équipes. Son combat sans merci lui vaudra de nombreux ennemis. Elle est assassinée le 27 décembre 1985. On ne connaît toujours pas le meurtrier. C'est ici qu'elle est enterrée, à quelques mètres de son campement, au cœur du parc des volcans.
À chaque fois que je viens ici, j'ai très mal au cœur. Je n'arrive pas à parler, j'ai envie de pleurer, ça me fait très mal. Dian aurait dû vieillir ici.
Shelly Massy, cette pionnière, vous en êtes inspirée. Je pense qu'on doit aussi vous dire que vous êtes aujourd'hui la Dian Fossey des gorilles des plaines.
Merci pour ce titre. Des gorilles de l'Ouest, bien évidemment, parce qu'il y a un grand héritage, heureusement, pour les gorilles des montagnes. Il y a beaucoup de gens qui les continuent à les étudier aussi parce qu'ils vivent dans des pays qui sont très développés, très faciles pour aller. Oui, bien évidemment, une fois que je suis tombée amoureuse avec les gorilles, j'avais ce tiroir, ce rêve dans les tiroirs. J'ai tout de suite regardé Gorilles dans la brume et aussi lu les livres et j'étais en train de rêver d'être comme elle, bien évidemment.
Donc, on comprend avec vous, hein, Chili Massé, qu'il y a des groupes, mais aussi des sous-groupes de gorilles. Donc, gorilles de l'Ouest, ceux de l'Est, des montagnes, des plaines. Il y a des espèces, des sous-espèces. En fait, qu'est-ce qu'on peut en dire? Combien sont-ils à l'échelle de la planète? Est-ce qu'on en a une idée? Et où on les trouve plus particulièrement, géographiquement?
Oui. Effectivement, on a la tendance à dire gorille des montagnes, mais il appartient à une autre espèce. Donc, il y a deux espèces, les gorilles de l'Ouest et les gorilles de l'Est. Mmh. Les gorilles de l'Est, qui vivent au Rwanda et Ouganda, et aussi un peu dans la RDC, il inclut les gorilles de montagnes et les gorilles de Grauer. À l'époque, on les appelait les gorilles de plaine de l'Est, mais aujourd'hui, on les appelle gorilles de Grauer parce qu'ils ils sont quand même en altitude. Et ils sont tous à peu près 5000 individus. Donc, les deux sous-espèces, la sous-espèce des montagnes et la sous-espèce des gorilles de Grauer sont quand même pas très nombreuses. Mmh. Et les gorilles des montagnes eux-mêmes, ils sont juste 1000 individus à peu près. Mais sont la seule population des grands singes. Donc, le grand singe inclut les gorilles, les chimpanzés, les orang-outans. Et l'homme, c'est la seule espèce de grand singe non humain qui est en train d'augmenter. Toutes les autres populations de grands singes sont en train de diminuer. Oui. Et donc sont menacées ou très menacées de disparition. Donc on a vu l'espèce de l'Est avec les deux sous-espèces de montagne et de Grauer. Et après, il y a l'autre espèce, la moins connue, les gorilles de l'Ouest, qui inclut les gorilles des plaines de l'Ouest, que c'est la sous-espèce que j'étudie, qui est la sous-espèce la plus nombreuse, avec plus nombre d'individus, sont à peu près 360 000 individus, mais sont quand même en danger critique de disparition. Parce qu'ils ont été décimés par Ebola au début des années 2000. Et aussi, bien évidemment, il y a le braconnage, la déforestation qui pèse sur eux. Et après, il y a une petite sous-espèce de gorilles de l'Ouest qui s'appelle le gorille de Cross River, qui sont vraiment, c'est une population, on dit relicte en anglais, parce que c'est une population de 250-300 individus et c'est une population qui est vraiment dispatchée dans différentes poches de forêt qui ont été un peu séparées, on peut dire. Et donc, c'est une population qui a interrogé beaucoup la conservation, si c'est vraiment la peine d'essayer de la sauvegarder ou pas, parce que c'est un peu désespéré. Alors habite dans le Cameroun et Nigeria. Par contre, les gorilles de l'Ouest, des plaines de l'Ouest que j'étudie, c'est République centrafricaine, Congo, Brazzaville, Cameroun, Gabon.
D'accord.
Et Cabinda.
Alors pour vous, encore fallait-il arriver en Centrafrique, justement. Comment s'est réalisée votre première rencontre avec eux, hein, les gorilles, sur le terrain?
Alors, la première rencontre était vraiment un peu effrayant, mais moi je me rendais pas compte évidemment, parce que effectivement le gorille n'était pas encore très habitué, donc il échappait plus, mais on pouvait les approcher mais rester à distance. Et donc quand on est allé les chercher la première fois pour moi, il était dans une végétation très très dense où la visibilité était vraiment un demi-mètre. Et donc, bien évidemment, c'est normal de ne pas réussir à les détecter en temps pour ne pas les approcher trop de façon qu'ils restent tranquilles. Et donc, on marchait doucement avec moi qui, je raconte dans les livres, que je faisais beaucoup de bruit parce que c'était la première fois que je marchais. Et les pistères Aka, qui sont vraiment incroyables, le peuple de la forêt, qui sont les seuls capables de suivre les traces des gorilles chaque jour et retrouver la même famille, ils n'aimaient pas du tout comme je marchais parce que je faisais trop de bruit. Il faut apprendre à marcher sans regarder à terre et sans faire du bruit. Et donc, évidemment, le gorille a entendu ma marche avant que nous, on puisse entendre lui. Et Mlim, ce doigt argenté qu'on habituait à l'époque, il est sorti de la végétation et il est venu à griffer, à grapper La jambe du pisteur.
Des pisteurs incroyables, hein, issus d'un peuple autochtone, les Haka. Ils sont hors pair, furtifs. Ils ont les yeux, l'ouïe, l'odorat complètement mobilisés. On perçoit cela dans votre livre pour repérer donc les traces des gorilles. Ils voient l'invisible.
Oui, c'est ça. Ils sont bioniques. Ils ont les sens beaucoup plus développés que nous. Pour une question de survie, parce qu'ils ont l'habitude d'être dans la forêt, mais ils peuvent voir l'invisible, ils peuvent sentir et entendre ce que nous, on sent et on n'entend pas. Et c'est vraiment sans eux, on ne pourrait jamais suivre les gorilles de l'Ouest. Et c'est pour ça, effectivement, que les gorilles de l'Ouest sont très peu étudiés encore, parce que ce n'est pas très facile de les habituer. On a pris 8 ans pour les habituer parce que les charges dont je viens de raconter sont normales. C'est des charges qui peuvent durer jusqu'à 8 ans. Et il faut avoir vraiment des pisteurs qui sont capables de retrouver les traces et d'être courageux de rester avec nous, avec les gorilles. Parce que, par exemple, Chloé, quand elle a commencé l'habituation des gorilles, les pisteurs Haka, elle a dit, bon, vous laissez vos machettes à la maison et on va dans la forêt sans machette et on approche les gorilles, les pygmées Haka. Ils pensaient que les gorilles étaient très agressives, c'était pas possible. Et donc ils ont pensé qu'elle était une folle. Et après, au fur et à mesure, ils ont compris que c'était possible. Mais ça, c'est vraiment très spécifique de la République centrafricaine. Et les pisteurs du WWF de la République centrafricaine sont allés au Gabon et au Cameroun pour montrer ce travail aux pisteurs du Cameroun et du Gabon, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très difficile. Aujourd'hui, on a 3-4 groupes au monde qu'on peut vraiment approcher. Et avant, la RCA, c'était la seule qui avait 3 groupes en même temps de cette espèce habituée. Donc, bien évidemment, on peut l'observer bien ici, mais on ne connaît pas beaucoup des autres groupes.
Alors, je vous propose de vivre cette expérience. Alors, non pas avec vous dans cet extrait-là, mais avec un Français qui s'appelle Max Yourdebourg, extrait du feuilleton intitulé « Gorille, le tête-à-tête », diffusé sur Antenne 2 dans le journal de 13h en mai 2018.
Il marche comme ça. Ça, c'est sa patte arrière. Et là, il pose sa main droite. Donc, on a les empreintes, les grosses empreintes. Donc, sa main, elle fait ça de large. Donc elle fait le double des miennes. Quand il tape sur la poitrine, ça fait un son assez sec, comme cloc-cloc-cloc. Et j'ai entendu... Ouais, alors c'est assez loin. Soit ils sont à côté, soit ils viennent, soit... Mais c'est certain, c'est eux. Donc il y a un groupe pas loin. Essaye de communiquer avec eux pour apaiser.
France Culture, de cause à effet, Aurélie Luneau.
Apaisé. On imagine quand même ce que peut faire la première charge d'un gorille chez Limassi. On doit quand même maîtriser son stress. Et ce que vous nous racontez, c'est que finalement, ces charges-là, elles sont moins dangereuses que les charges d'éléphant, par exemple. Parce que les gorilles, ils chargent, mais ils s'arrêtent à un mètre. Alors, vous sentez le souffle, mais vous n'avez jamais assisté à un accident véritable avec les humains. Il faut être dans quelle position pour éviter justement d'entrer en collision, si je peux me permettre ce mot.
Oui, la grande différence, c'est que les accidents peuvent se passer, on les a eus, mais il faut bien se comporter. Si on se comporte bien, dans 98% des cas, rien se passe. Ça veut dire, si on a même un gorille énorme de 180 kilos qui nous charge, nous crie avec les canines qui sont 10 centimètres, il arrive en toute vitesse vers nous et on pense qu'il va pas pouvoir dévier parce que l'inertia va se jeter sur nous. Le problème, c'est si on reste sans bouger et on fait pas des gestes, normalement il va dévier au même à la dernière seconde, même à quelques centimètres de nous. Donc si on se comporte bien, le gorille effectivement peut être on peut éviter l'accident avec les gorilles. Le problème, c'est quand il y a effectivement un éléphant qui charge et on est avec les gorilles, parce que avec l'éléphant L'éléphant vient vers vous en vitesse, en criant, une charge. Je l'appelle dans les livres le Tyrannosaurus Rex de la forêt, parce qu'effectivement, on a toujours peur de rencontrer des éléphants qui arrivent en charge à l'imprévis. Et donc, il faut courir, par contre, avec l'éléphant, le plus vite possible dans la direction opposée de lui. Et donc, imaginez déjà courir dans la jungle où il y a la végétation
très
épineuse,
dense,
très dense, il y a les arbres qui sont tombés. Donc, ce n'est pas très facile. L'éléphant, il casse toute la végétation, mais nous, il faut sauter. Donc, ce n'est pas si facile. Mais heureusement, l'éléphant n'a pas une endurance qui dure longtemps. Donc, normalement, après quelques dizaines de mètres, il s'arrête. Mais il y a certains cas dans lesquels ils continuent à nous poursuivre. Là, ça, c'est vraiment effrayant. Mais la chose que je trouve la plus effrayante, c'est que quand on est avec les gorilles, donc imaginez, moi, je suis en train d'observer les gorilles, et il y a un éléphant qui arrive en charge derrière
dans le dos.
Donc nous, on est entre les deux. Il ne faut pas bouger pour le gorille et il faut courir le plus vite possible avec l'éléphant qui charge. Donc là, c'est très dangereux et on a eu des accidents, effectivement. Où j'étais pas là, mais effectivement, si on court vers les gorilles pensent qu'on est en train de les charger, donc ils nous mordent. Et donc, ce qu'il faut faire, il faut maintenir le sang froid. Et effectivement, les bayaks, ils ont la tendance à courir parce qu'ils ont peur de l'éléphant. Et donc, je les bloque normalement et je lui dis, il faut doucement aller de côté et après on va courir de façon que les gorilles restent tranquilles.
Des stratégies que vous avez appris à développer dans cette jungle. Il faut aussi préciser que les conditions, vous avez vécu dans un campement qui se trouve dans la jungle, dans le parc national de Zangandoki. J'espère que je prononce bien ce campement qui s'appelle Bai Oku, un lieu rustique et avec ce travail de collecte, de données à réaliser, parce que vous, l'objectif, bien sûr, et à chaque fois, c'est comprendre et apprendre encore plus de ces groupes de gorilles. Alors concrètement, en matière d'organisation, comment ça fonctionne ?
La société des gorilles ?
Exact.
Oui, alors normalement on a des groupes familiales et on parle des gorilles de l'Ouest. Des gorilles de l'Ouest, il y a un groupe familial normalement avec un dos argenté, que c'est un mâle adulte, qu'on appelle dos argenté. Et chez les gorilles des montagnes, par contre, il y a plusieurs dos argentés, donc mâle adulte qui peut être dans le même groupe. Et donc, après le mâle dos argenté, il y a les femelles adultes qui sont les épouses de ce mâle et il y a leur enfant, leur petit. Et quand il y a les femelles qui vont grandir à la maturité sexuelle, elles vont quitter le groupe à l'occasion d'une interaction avec un autre groupe ou un mâle solitaire. Pourquoi ? Parce que les mâles, par contre, une fois qu'il devient adolescent et après il arrive à la maturité sexuelle, il devient dos noir. En réalité, c'est un dos un peu roux.
Donc le jeune, il est d'abord adolescent vers 7 ans et demi, il devient dos noir à partir de 11 ans et adulte vers 18 ans.
18 ans, exactement. Adulte, ça veut dire qu'il a développé le dos argenté. Il est vraiment similaire à son papa.
Et il peut constituer son propre groupe.
Et il peut commencer à constituer son propre groupe, mais il n'a pas encore développé vraiment bien la bosse qu'il a, qu'on appelle crête.
La crête.
Qui est typique du mâle.
Oui.
Donc il va quitter le groupe à cet âge-là, normalement, et il va essayer de former son propre groupe. Donc s'il est un mâle désaxé, il va essayer de voler, et il arrive à voler des femelles à d'autres mâles. C'est pour ça que les femelles...
Donc il faut être plus séduisant que le dos argenté des autres groupes, pour attirer d'autres femelles.
Et donc il y a des études qui ont montré que plus la bosse, la crête est grosse, est plus prononcée, et plus le mâle est sexy.
Plus ce sont des séducteurs.
Oui, donc il a plus de femelles. Et donc c'est pour ça que les femelles, les jeunes femelles, les adolescentes, les filles du dos argenté, elles vont quitter le groupe quand il y a une interaction avec un mâle solitaire ou un mâle d'un autre groupe. Malheureusement, il y a aussi des mâles qui ne sont pas assez sexy, entre guillemets, et qui n'arrivent
qui
jamais à
tout
prendre...
Seul, en fait. Ouais. Et les mères gardent leur bébé, leur petit, jusqu'à l'âge de 4 ans environ.
Oui, à 4 ans, il y a le sévrage qui est plus long que chez les gorilles de montagne, par exemple. Chez les gorilles de montagne, 3 ans. Et ça dépend vraiment de la distribution de la nourriture. C'est un peu plus compliqué dans la forêt des plaines. L'abondance de la nourriture change, donc il reste un peu plus de temps avec la mère. Ils sont allaités plus de temps, parce qu'après, ils restent quand même dans les groupes. Et la chose qui m'a toujours intriguée beaucoup, c'est que la femelle, elle porte son bébé pour vraiment un an, voire deux ans, toujours avec elle. Bon, à 10 mois, elle commence pour la première fois à rester quelques minutes à côté d'elle, à terre. Mais elle le porte tout le temps, tout le temps. Et donc, ce que j'ai vu, c'est que les femelles, à un certain moment, elles ne peuvent plus. C'est comme nous, les humains. Elles ne peuvent plus...
Ou gérer même leur propre alimentation. Parce que ce qu'on découvre aussi dans votre livre, chez Limacy, c'est les erreurs que l'on peut faire sur l'alimentation. C'est-à-dire déjà de quoi se nourrissent. Et puis aussi, comment est gérée la consommation de cette alimentation? Racontez-nous peut-être ce que vous avez mis en lumière.
Oui, donc effectivement, vu que les gorilles de l'Ouest, ils mangent le fruit quand les fruits sont disponibles. Donc imaginez, vous êtes dans la forêt, c'est la saison sèche, il n'y a pas de fruits. Donc les gorilles mangent des feuilles et des plantes herbacées en priorité. Après, au fur et à mesure qu'il y a la pluie qui tombe, les arbres vont mûrir les fruits qui sont... Et donc, pendant la saison des pluies, il y a une saison que j'appelle la saison à haute frugivorie des gorilles. Parce que là, les gorilles se régalent parce qu'il y a plusieurs espèces de fruits qui sont très juteux, très sucrés, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas penser qu'il y a les bananes ou la mangue comme on imagine dans la forêt tropicale. Non, ça sont des fruits qui sont domestiqués par l'homme, très riches en sucre et peu riches en fibres. Les fruits qui sont là-bas, j'étais déçue quand je les goûtais parce que c'était toujours très acide, très astringent. Mais les gorilles les adorent parce que quand même il y a du sucre dedans, même si nous on le perçoit pas. Et donc les gorilles mangent beaucoup de fruits pendant la saison de pluie qui est à peu près notre été, on peut dire, en République centrafricaine au moins. Et donc ils deviennent très frugivores. Et le fruit, qu'est-ce que ça change toute leur socialité, parce que le fruit, comme je dis, on peut le monopoliser. Et donc, il y a des individus qui deviennent plus dominants que d'autres, parce qu'ils monopolisent plus que d'autres. Et aussi, j'ai vu même les mères qui volent les fruits à leurs propres enfants, parce que il y a une compétition, ce qu'on appelle compétition alimentaire, qui est élevée à cause du fait qu'ils sont frugivores et que la nourriture peut être monopolisable. Oui. Les gorilles de montagne, on pensait, jusqu'à les années 2000, on pensait que les gorilles en général étaient plutôt herbivores, parce qu'on avait dans la tête l'idée du modèle de gorilles de montagne. Les gorilles de montagne, ils n'ont pas beaucoup de fruits dans la montagne, donc ils mangent beaucoup de plantes herbacées, de feuilles. Et donc, les plantes herbacées, normalement, sont très distribuées et abondantes au sol. Donc, tout le monde a à manger.
La compétition n'est pas la même.
N'est pas la même. Donc, la socialité des gorilles n'échange pas beaucoup. Bah, il y a des dominantes, mais ce n'est pas très évident comme chez les gorilles de l'Ouest. Et en plus, le fait d'être frugivore change aussi la façon de chercher la nourriture. Parce que si on doit manger des plantes herbacées, on ne doit pas marcher beaucoup par jour. Par contre, si on sait que cette espèce d'arbre qui est éparpillée dans la forêt, éloignée, a des fruits en ce moment, les gorilles se mettent en marche et doivent rester tout le monde ensemble pour aller chercher le seul arbre qui a les fruits.
Le groupe ne se sépare pas.
Les groupes ne se séparent pas parce qu'il est cohésif.
Et donc, ils peuvent marcher sur 1-2 kilomètres alors que les gorilles des montagnes, eux, font 250 mètres en moyenne,
oui.
C'est ça. Ce qui fait qu'ils n'ont pas les mêmes besoins nutritionnels, on l'imagine. Et alors, ce que vous nous racontez aussi, c'est que finalement, le dos argenté, il est prioritaire sur la nourriture qu'il monopolise souvent. Et le reste, alors, pour le groupe, mais dans ce groupe-là, finalement, il y a des stratégies qui se mettent en place,
oui.
Pour essayer de survivre, tout simplement.
Oui, c'est sûr. Donc, le mâle dos argenté, il est le protecteur de la famille, il est aussi prioritaire sur l'alimentation, mais il faut penser aussi qu'il fait double la taille de la femelle, par exemple. Donc, il arrive, il monopolise tous les fruits. Mais la femelle la plus dominante, elle souvent se met à côté de lui en essayant, avec des stratégies, en faisant semblant, par exemple, qu'elle est en train de dormir, de voler quelques petites parties de fruits qui tombent. Par exemple, dans les cas, ça c'est évident, ce que j'ai décrit, c'est évident, dans les cas d'un fruit qui est grand comme un ballon de basket. Et donc, vous pouvez imaginer, l'arbre ne peut pas produire 10 ballons de basket. Il produit un ballon de basket mûr et un peut-être qui n'est pas mûr. Et donc, le dos argenté arrive, il prend son ballon de basket, il se met assis et il le mange pour 2 heures. Et les autres, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, les subadultes et les femelles non dominante, il essaye de chercher d'autres choses, de manger d'autres choses alternatives, dans l'attente d'avoir les restes qui resteront après deux heures. La femelle dominante, par contre, elle se met à côté, elle essaye en faisant semblant qu'elle attend, elle est en train de dormir. Quand il y a des petits bouts qui tombent à terre, elle le vole sans se faire voir.
Donc ils usent aussi de ces stratégies, du mensonge, se servent d'outils, hein, si besoin, pour leur nourriture, des bâtons par exemple, pour mieux se servir et saisir des larves.
Non, ça c'est par contre, je le décrivais plutôt pour les chimpanzés, parce que les gorilles,
d'accord,
effectivement...
Eux ne font pas ça.
Non, justement, sont les primates de plus grande taille. Et donc, ils utilisent davantage la force pour la nourriture, parce qu'ils mangent des termites, mais ils cassent les termitières et ils arrivent à extraire les termitières avec la force. Par contre, les chimpanzés, qui font la taille à peu près d'une femelle gorille, il utilise des manipulations fines pour pêcher avec des bâtons, effectivement, les termites. Et longuement, on a pensé que les gorilles étaient plus simplement plus bêtes des chimpanzés, qui sont les plus proches à l'homme, donc on pensait que les capacités cognitives n'étaient pas les mêmes. Et finalement, si on observe les gorilles en zoo, il faut savoir que la totalité des gorilles qui sont en zoo sont les gorilles de l'Ouest. Parce que les gorilles des montagnes sont probablement plus sensibles, ils n'arrivent pas à survivre.
Et beaucoup sont nés en captivité.
Et beaucoup, aujourd'hui, sont beaucoup nés en captivité parce que c'est interdit d'aller les prélever dans la nature.
Donc évidemment, on ne peut pas se baser sur les données pour comprendre le groupe tel qu'il vit dans un milieu sauvage. On peut pas se basé sur les données identifiées dans les zoos.
Dans les zoos, non. En plus, l'environnement est totalement différent. Ils sont nourris. C'est totalement. Il n'y a pas d'autres groupes qui les attaquent. Donc, c'est totalement différent. Mais par contre, si on lui donne les mêmes tâches de chimpanzé, de pêcher le bâton pour pêcher de la nourriture, il arrive à le faire très bien. Donc, les capacités psychomotrices sont là. C'est juste qu'ils n'ont pas la nécessité dans les milieux naturels. Et donc, les observations d'outils sont très rares.
D'accord.
Ce dont vous parlez, peut-être, c'était l'observation que j'ai vue, effectivement, pour casser ces termites.
C'est ça.
Oui, désolée. C'est moi qui n'avais pas... Parce que ce n'est pas avec le bâton, mais c'est avec ce que j'ai vu normalement. Donc, ils cassent les termites et ils frappent une portion de termitière sur la main et ils mangent les termites. Ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu deux jeunes, cette fois de groupe que j'étudiais pour peu longtemps au Congo. Ils ont gardé deux pièces de termitières et ils les ont frappées l'une contre l'autre pour essayer d'ouvrir les termitières. Et ça, on l'appelle tool use, utilisation d'outils, parce qu'ils ont utilisé une pierre de termitière pour
c'est
ouvrir
ça.
L'autre. Et surtout, c'est un geste très important, parce que c'est un geste qui a été clé pour la production des outils en pierre pendant notre évolution. C'est exactement les gestes que nos ancêtres faisaient pour de frapper une pierre contre l'autre pour former des éclats qui étaient utilisés pour des...
Les silex.
Les silex pour les lances. Et donc, effectivement, avec cette observation, on a pu montrer que les gorilles ont les capacités psychomotrices qui ont été clés, qui sont nécessaires pour la construction des outils en pierre.
Alors, vous luttez contre les idées reçues, hein, comme je l'ai expliqué précédemment. Par exemple, ils ne s'épouillent pas, et même s'ils sont infestés de minuscules tiques. Hein.
Oui, c'est vrai.
Ça, non.
Oui, ils ne s'épuisent pas parce que simplement, je pense qu'ils n'ont pas le temps pour s'épuiller. Il y a tellement beaucoup de choses, de la nourriture à manger. Et effectivement, les épuyages, on ne le voit qu'entre les femelles et les bébés. C'est le nettoyage des bébés. Et par contre, on voit beaucoup d'individus, de jeunes individus surtout, qui ont les yeux qui sont contournés par des petits tics, qui en plus, nous on les a parfois, j'ai une centaine, parce que si on tombe sur les nids de ces tics, tu as une centaine sur toi, et ils font même mal ces tics, parce que plus elles sont petites, plus elles donnent une espèce de... une charge électrique quand on y passe.
Et vous racontez aussi que vous êtes souvent rentré en France malade, hein, parce que c'est quand même un environnement particulier et pas facile pour les humains. Vous avez récolté de l'urine, des excréments aussi. Qu'est-ce que vous cherchiez à ce moment-là à déterminer?
Alors, il y a différentes choses avec les excréments. Donc, les fesses, on peut faire plusieurs choses. On peut analyser l'ADN de l'individu pour savoir effectivement les liens d'apparentement entre les individus. Et ce que c'était étonnant, on s'attendait qu'avec la société, un mâle et les femelles et les enfants, on avait l'a priori que tous les enfants étaient les fils du doigt argenté. Or que nous, on a trouvé des exceptions. Et là, je suis encore en train de creuser cette question parce que j'ai aussi observé des infidélités entre les femelles qui posent beaucoup de questions sur les stratégies justement de ces femelles pour protéger leur propre enfant par l'infanticide. C'est la raison pour laquelle effectivement le doigt argenté est protecteur de ces familles. C'est parce que on a dit les mâles solitaires et les autres groupes peuvent attaquer le groupe pour voler les femelles. Mais la première chose qu'ils vont faire, c'est de tuer les petits enfants qui sont dépendants de la mère, donc qui sont allaités. Donc les enfants qui ont moins de 4 ans, qui ne sont pas sévrés. Pourquoi? Parce que la femelle redeviendra réceptive plus vite,
et donc productive,
plus vite, et donc reproductive. Et aussi, ce qu'on a observé, c'est que si une femelle perd son enfant, même pour des raisons, il tombe dans l'arbre, c'est pas la faute du doigt argenté, elle va plus avoir confiance dans son mâle et donc elle va quitter les groupes. Donc l'infanticide libère des femelles dans des groupes familiales pour rejoindre d'autres groupes de mâles solitaires. Il faut le regarder au niveau à l'échelle de la population parce que contrairement à ce que tout le monde pense qui se passe par exemple chez les lions où il y a l'infanticide, c'est pas que les lions qui a tué l'enfant les lions qui a tué l'enfant deviennent les mâles alpha du groupe et les femelles vont se reproduire avec lui. Mais les gorilles sont des primates, sont très proches de nous. Et eux, ils ne vont pas s'accoupler avec lui qui a tué leur propre enfant. Donc, le mâle a tué l'enfant, mais il va quitter, il va repartir. Et la femelle, après quelques jours, elle va quitter son propre mâle parce qu'il n'est pas, il n'a pas su la défendre au point que le bébé est mort. Et en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que plus le doigt argenté vieillit, et plus il va perdre des femelles, parce qu'il perd la puissance, et les femelles, elles le sentent bien.
Elles perdent la protection.
Oui. Mais j'ai pas répondu au reste de la question. On peut trouver aussi sur les fesses, on peut étudier leur santé, par exemple, les parasites, et aussi les urines. On est en train d'étudier le stress oxydatif, donc voir qui est lié normalement au vieillissement, mais aussi aux maladies, pour voir l'impact de la nourriture, par exemple, le manque de nourriture pendant la saison sèche, sur le stress oxydatif des individus.
Alors, vous avez aussi remarqué un point extrêmement important, c'est qu'il y a des identités olfactives propres à chacun.
Oui, ça c'était très intéressant parce que et c'est grâce au Bayaka que je me suis rendu compte de ça parce que eux, ils, certains d'entre eux, ils me disaient ah Maloui, la femelle, elle est là parce que je sens son odeur et donc j'ai prêté attention. Effectivement, elle avait une odeur particulière et qu'on pouvait la suivre avec bon le Bayaka disait son parfum, on pouvait suivre elle par son parfum, mais aussi on se rend compte de ça aussi quand on arrive dans un lieu où il y a eu une bataille entre mâles. Par exemple, il y a les mâles quand ils sont agressifs, ils vont émettre une odeur particulière que c'est un peu l'odeur que vous sentez dans les eaux parce qu'ils sont un peu plus stressés. Et chaque mâle peut avoir son odeur particulière. Et donc souvent, on disait non, mais ça, c'est pas un Macumba, parce que l'odeur est différente.
Ah oui, parce que vous mentionnez Macumba, mais on va en parler après votre choix musical. Vous avez aussi nommé hein, ces individus-là. Alors, votre choix musical, Shelly Massy, vous nous avez proposé une chanson que vous écoutiez là-bas. Peut-être que vous continuez à l'écouter. Dites-nous quelle est cette chanson et dans quelles circonstances elle est si importante pour vous hein, par rapport à votre travail.
Oui, j'ai mentionné Waka Waka de Shakira parce que je trouve que le rythme de l'Afrique est vraiment là-dedans et en plein énergie. Et souvent, pour garder l'esprit haute dans la forêt, on fait des fêtes. avec l'épistère le soir pour et on danse. On peut danser cette chanson ou des chansons aussi plus congolaises et de l'Afrique centrale que j'adore aussi. Effectivement, mais aussi des chansons, effectivement, ils peuvent faire aussi leur propre musique. La musique des Zaka, c'est magnifique aussi. Et il peut transformer un petit bassin en métal, en tantam, et il fait de la musique. Et si la musique Bayaka va bien, les esprits de la forêt arrivent. Mais et ça, c'est magique.
Mais sur Shakira, les pisteurs dansaient alors?
Ah oui, beaucoup.
Choosing your battles, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh-oh, and if you fold it up, eh-eh, tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh-eh. This time for Africa. Listen to your guide, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment. Hesitation. Today's your day. I feel it. You pave the way. Believe it. If you get down, get up. Oh, oh. When you get down, get up. Hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey.
Shakira. Africa, et c'est la chanson intitulée Waka Waka, le choix musical de notre invité Shelly Massy. Et vous êtes bien dans De Cause à Effet, le magazine de l'environnement de France Culture. Nous sommes en direct et nous sommes ravis d'accueillir Shelly Massy, primatologue, spécialiste des gorilles, maîtresse de conférences au Muséum National d'Histoire Naturelle et au Musée de l'Homme, auteur du livre Queen Kong, un livre paru chez Albin Michel. Shelly Massy ou la passion gorille, tribulation et secret d'une primatologue au cœur de la jungle, c'est le sujet du jour.
Ah, et regardez, une crotte. Vous voyez une trace?
Vous voyez qu'ils ont été ici, manger les bambous jeunes.
Ces pousses de bambou sont la nourriture préférée des gorilles. Preuve qu'ils ne sont plus très loin. Mais la progression est de plus en plus difficile. La végétation, de plus en plus dense. Dernier coup de machette. Et on devine le premier d'entre eux à travers les feuilles. Les traqueurs imitent le son de l'animal pour mieux se faire accepter.
Ils sont là. Il n'y en a qu'un. Où sont les autres?
Les autres ne sont pas bien loin. C'est la mère qui se charge de calmer tout le monde. Et la sérénité revient dans ce groupe d'une trentaine de gorilles.
C'est un animal très important.
Extrait de ce feuilleton intitulé « Gorille, le tête-à-tête » diffusé sur Antenne 2 dans le journal de 13h en mai 2018. On entendait dans ce reportage chez Shelly Massy, il faut rappeler que c'est auprès des gorilles de montagne plus facile à approcher. Vous nous l'avez expliqué, hein, 2 ans d'habituation par rapport à 6 à 8 ans, effectivement, plutôt 8 ans pour les gorilles des plaines. Mais on sent, on perçoit le rôle des femelles. Et ces femelles-là, elles jouent un rôle que l'on ne soupçonnait pas avant, notamment vos recherches et vos analyses. Il existerait donc une loi de la jungle au féminin?
Oui, et j'étais moi-même très étonnée de la découvrir parce que je suis partie avec la passion de gorille et la passion surtout du doigt argenté, totalement fascinée par ce doigt argenté très beau, coloré, la tête rousse et les dos blanc argentés. Les femelles, déjà à l'apparence, elles semblent beaucoup plus moches, elles rappellent plutôt un australopithèque, elles ne sont pas très belles. Donc,
vous les adorez quand même.
Oui, mais au début, je pensais pas qu'elle était si fascinante. Oui, oui. C'est ça justement oui, qu'après avoir passé des années à les étudier, je me suis rendu compte que les femelles sont beaucoup plus fascinantes et intéressantes que les doigts argentés. Parce que les doigts argentés, ils dorment tout le temps. Ils dorment et ils mangent. Et c'est tout. Les femelles, par contre, elles doivent trouver des alternatives.
Et elles sont stratèges.
Eh oui, exactement, avec intelligence. Et justement, par exemple, la femelle qui est sur les livres, sur la couverture du livre, Maloui, elle a des yeux qu'elle est super intelligente. On voit déjà son regard, elle est super intelligente. Et elle était devenue dominante. Elle n'était pas dominante au début, elle est devenue dominante. Et effectivement, on s'est rendu compte que d'abord, on pensait que les doigts argentés étaient les chefs du groupe. Ils guidaient les groupes parce qu'ils étaient les protecteurs, ils étaient dominants sur la nourriture. Mais en fait, au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte que les femelles avaient aussi un rôle dans les guides, surtout les femelles les plus dominantes.
Donc elles se battent pour leurs droits, pour l'accès à la nourriture, mais elles en voient aussi au chapitre dans les décisions du groupe.
Exactement. Effectivement, par exemple, on a vu que quand les groupes qui doivent rester cohésifs, on l'a dit parce qu'il y a l'infanticide, ils restent à dormir pour 1 heure, 2 heures maximum. Après, ça peut être les doigts argentés, mais aussi les femelles qui décident où aller et quand partir. Et donc, ce qu'on entend, par exemple, c'est que le doigt argenté peut commencer, mais ça peut commencer aussi par les femelles dominantes qui peuvent faire cette vocalisation, ce grognement. Et donc, s'il y a
on peut peut-être l'entendre, parce que vous en avez capté et nous allons en bénéficier, justement. Alors, ceux-là, ce ne sont pas des femelles, mais c'est plutôt le mâle,
oui. Parce que c'est un peu plus fort, mais les femelles font la même chose et sont des vocalisations qui permettent la cohésion, la coordination du groupe. Et donc, quand ils sont en train de se reposer, par exemple, le mâle peut faire et les autres peut répondre aussi, ou peut être une femelle dominante qui commence. Et si les autres font, quand il y a un nombre suffisant d'individus qui s'est exprimé, et ça, ça veut dire que c'est le temps de partir. Il y a la majorité.
On y va. Quoi.
Il y a comme un quorum qui est, on dit vraiment quorum dans la science. Il y a un quorum d'individus qui sont d'accord pour partir, ils peuvent partir. Et donc, on dit que c'est une espèce de vote dans lequel tout le monde peut s'exprimer, aussi les subadultes. Et si beaucoup du monde s'est exprimé de façon positive, alors il peut partir, même si les doigts argentés restent à dormir, il n'est pas, encore prêt pour partir. Donc le groupe peut être guidé par ces femelles dominantes qui
donnent le top départ.
Qui donnent le départ, mais aussi qui donnent
la direction.
La direction, parce qu'on a étudié aussi une autre vocalisation que je ne vous ai pas donnée, parce que c'est la même, mais un peu plus longue, c'est un peu plus... Et qui donne vraiment un peu la direction après que les temps, la prise de décision, le temps de partir a été prise. Donc, c'est les femelles dominantes et le doigt argenté qui peut donner la direction avec
On part par là.
Exactement, c'est comme je vais écrire. et l'autre chose intéressante, c'est que ça peut être aussi lié à la destination. Donc, plus ils vont loin et plus elles vont faire cette vocalisation.
Alors, il y a un autre son que nous avons proposé. Vous allez justement nous en parler.
Parce que le premier, c'était un frappement de poitrine. Et le deuxième, c'est un grognement un peu plus profond qu'on appelle belge.
Oui.
et qui c'est un peu plus difficile à comprendre. On est encore en train d'étudier parce que vous imaginez, ils ont à peu près 37 sons qu'ils peuvent émettre et donc c'est très difficile de comprendre tous les sons qu'ils la fonction. Et donc ça, c'est plutôt le doigt argenté qui le fait et ça semble être lié plutôt à la cohésion et à la coordination du groupe.
Alors, vous avez été témoin de la première société femelle gorille.
Oui, j'étais très impressionnée. J'étais émue dans la forêt parce que, effectivement, la chose triste qui s'est passée, c'est qu'on a perdu les trois doigts argentés des trois groupes qui étaient habitués, pour lesquels Zangasang était le premier site au monde qui avait trois groupes de gorilles habitués. Et dans un de ces groupes, il n'y avait pas de mâles adolescents. Et donc, c'était que les femelles qui restaient quand le doigt argenté est disparu. Le doigt argenté est disparu pour des raisons qu'on ne sait pas. Dans ce cas, on l'a trouvé avec des fractures. Probablement, il est tombé dans l'arbre. Peut-être il était malade, on ne sait pas. Parce que les doigts argentés ne tombent pas si facilement de l'arbre. Mm. Par contre, les femelles sont restées toutes seules. Et nous, on savait que les femelles ne pouvaient pas rester toutes seules comme ça. Et elle allait forcément rejoindre un autre doigt argenté. Mais les mois passaient et les femelles restaient toutes seules. Et donc, quand je suis allée là-bas, je me suis rendu compte que la femelle la plus dominante, Indolia, avait pris la tête du groupe et elle se comportait exactement comme un doigt argenté. Donc, je ne pouvais pas m'empêcher d'aller tous les jours à suivre ce groupe de femelles parce qu'à la place de suivre, par exemple, mon préféré Macumba que je connaissais depuis longtemps, parce que c'était vraiment étonnant de voir qu'elles faisaient tout, toute leur vie, sans doigt argenté. Elles n'avaient à la fin pas besoin de ce doigt argenté. J'ai toujours pensé que le doigt argenté était fondamental, mais elles savaient où aller. Elles se protégeaient. Le soir, elles prenaient des précautions. Elle et sa compagne, les enfants qui étaient restés avec elles, montaient tous sous les arbres. Elles dormaient sous les arbres pour une question de sécurité. Or que les gorilles, souvent, la majorité du temps, ils font les nids à terre. Oui. Et ils font sous les arbres seulement s'il y a de la pluie pour s'isoler du sol. Mais elles faisaient leur nid la nuit en hauteur. Et après toute la journée, elles activement cherchaient de suivre des groupes. J'ai vu qu'effectivement, ils l'ont suivi. Ils suivaient le groupe de Macumba jusqu'à un jour qu'on les a rencontrés. Et elle interagissait avec Macumba comme si elle était un doigt argenté. Dans la même posture d'un doigt argenté, elle faisait la même vocalisation du doigt argenté.
Et des gorilles amazones, vous dites?
Oui, elle était. Et en plus, parce qu'effectivement, elle a été attaquée par Maloui, la femelle dont j'ai parlé avant, qui était à l'époque la femelle dominante de Macumba. Parce que justement, elle ne voulait pas que Indolia et son groupe de femelles rejoignent le groupe de Macumba. Pourquoi? Parce que Macumba était vieux. Et en fait, après même pas un an, il est décédé aussi. Donc Maloui, intelligente, elle savait que Macumba ne pouvait pas accueillir plus de femelles. Macumba étant un mâle, il aurait pu prendre toutes les femelles qui s'est proposées. Mais Maloui a attaqué Indolia. Et donc Macumba, le doigt argenté, est arrivé dans l'attaque pour supporter Maloui. Et j'ai vu cette Amazone qui a même donné un coup au doigt argenté. Indolia a lutté contre le doigt argenté pour se défendre. Et c'était la première fois que j'ai vu vraiment une femelle
s'opposer
à un doigt argenté et lutter contre un doigt argenté. C'était vraiment émouvant.
On vous entend prononcer ces noms, hein, Macumba, Indolia, il y a Mlima aussi que vous avez beaucoup aimé. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, en sachant que vous avez plus d'action scientifique, hein, par exemple, vous ne les touchez pas, vous ne les approchez pas, vous mettez des masques pour pas les contaminer, par rapport à d'autres époques où une Jane Goodall ou une Diane Fossé qui était au contact. Mais est-ce que vous avez quand même franchi des interdits de primatologue dans les interactions avec ces gorilles?
Non, j'essaie de pas franchir. Peut-être ce que j'ai franchi, c'est pas au niveau physique pour ne pas le mettre en danger, mais c'est au niveau mental.
Vous n'êtes jamais allé au contact, en tout cas.
Non.
Même si certains ont voulu peut-être vous caresser, venir vous toucher.
Oui, c'est ça. Effectivement, les petits, ils essaient, ils sont curieux, ils essaient de nous toucher. On essaie toujours de reculer pour éviter le contact physique, parce qu'on sait par rapport à Djengoud et à Diane Fossey, on sait qu'aujourd'hui, si on le touche, il peut mourir.
Oui, donc, il peut être contaminé par des virus.
Oui, etc. Parce qu'ils sont très similaires à nous, mais ils n'ont pas. Donc, il peut attraper une maladie, mais ils n'ont pas les défenses immunitaires pour se défendre. Donc, on évite, on doit rester en réalité à 5, 7, 10 mètres de distance, mais parfois, il vient plus près. Et donc, ça, effectivement, parfois aussi pour les observer de façon. Mais de façon précautionnée, on est un peu plus près, ça dépend des situations. Mais c'est sûr que parfois, par exemple, à Maloui, je lui ai parlé, souvent je lui ai parlé en italien pour lui expliquer qu'est-ce que j'étais en train de faire, parce qu'elle était trop curieuse, elle me regardait et donc j'ai interagissé.
Elle s'approchait.
Et donc j'ai interagissé. Et ça, il ne faut pas le faire, parce qu'il ne faut pas modifier leur comportement, il faut les laisser. Il faut que, pendant l'habituation, on dit qu'on doit devenir un élément neutral de l'environnement. Or, là, il nous traite jamais comme un élément neutral, parce que si on est à côté d'un fruit que l'Édouard Argenteux veut, il va nous charger. Donc, il nous considère quand même en compétition comme partie du groupe.
Et alors, c'est compliqué, parce qu'il faut les habituer à vous, mais en même temps, vous pouvez, par cette habituation, les mettre en danger par rapport aux braconniers.
Oui, c'est vrai, parce que effectivement, avec l'habituation, il perd la crainte de l'homme. Mais c'est pour ça qu'on fait un bruit, que c'est le clacking, le claquement, pour se faire reconnaître, pour avertir que les gens qui sont en train d'arriver, c'est nous et c'est pas d'autres.
D'accord.
Et souvent, d'autres gens peuvent être agressés par les gorilles, parce qu'il faut quand même les approcher de façon douce, etc. Mais c'est vrai que quand on habitue des primates, on a le devoir moral de rester là-bas tous les jours, dimanche, Noël, premier de l'année. Et donc, les WWF font un travail incroyable pour ça, parce qu'ils ont des pisteurs qui travaillent tous les jours, qui sont tous les jours à côté des gorilles, pour justement les protéger et ne pas les perdre.
Je vois qu'il nous reste que quelques minutes, on aurait envie d'en parler encore des heures. Ce qui est intéressant, c'est que vous parliez de Maloui, ce lien d'affection, en lui parlant juste italien. Vous avez pu mesurer combien, après une absence de 2 ans de votre côté, parce qu'il fallait finaliser votre thèse de doctorat à Leipzig, vous êtes revenu, elle vous a reconnu.
Oui, c'est ça. Je m'attendais pas du tout qu'elle et d'autres m'ont reconnue. Comme vous l'avez dit, il y avait une petite qui a essayé de venir me toucher pour 3 jours de suite, Bocata. Et moi, j'étais gênée, parce qu'il faut reculer tout le temps. Et je m'attendais pas. Maloui, j'avais accompagné des touristes pour les voir le plus tôt possible. Et parmi tout le monde, elle m'a reconnue, parce qu'elle était en train de marcher. Et dès qu'elle m'a vue, elle était surprise, clairement. Elle est restée avec son pied soulevé. Elle m'a regardé comme ça, et elle est restée quelques minutes à me regarder, et c'est la façon effectivement dont il montre qu'il te reconnaît. Moi, je ne savais pas que c'était cette façon, mais après j'ai vu que...
Les pisteurs aussi vous l'ont dit.
Les pisteurs me l'ont dit, et pour Diane Fossey, c'était la même chose.
Est-ce que vous diriez que votre propre expérience de la maternité vous avait fait voir les choses autrement, et que dans ce cas-là, il y a peut-être des primatologues hommes qui n'ont pas perçu certaines choses que vous avez pu percevoir vous ?
Ah, c'est une très bonne question, parce que je trouve que les femmes sont effectivement un peu plus sensibles dans certains comportements, pour capter certains comportements. Et c'est sûr que ma maternité, que j'écris ce livre pendant que j'étais enceinte, et m'a changé vraiment beaucoup le regard, surtout des femelles, que déjà j'avais découvert que elle était beaucoup plus importante dans les groupes. Mais les liens qu'il y a entre l'enfant et la mère, et cette crainte de l'infanticide, je trouve que ça c'est beaucoup plus importante de ce qu'on pensait avant. Et parce que là j'ai expérimenté les liens maternels, c'est tellement fort, et ça met de la peur que l'enfant peut avoir des choses. Et c'est pour ça, effectivement, que les femelles sont les plus difficiles à être habituées, sont celles qui acceptent le plus durement la présence de l'homme. Et il y a toujours, pour mon expérience, une femelle qui ne nous accepte jamais. Elle est là, elle nous tolère, mais elle continue à nous charger, à nous agresser un peu.
Comme bombe, hein, mais nos auditeurs découvriront bombe dans votre livre. Allez, dernière petite question rapide. Quel mystère aimeriez-vous élucider dans ces communautés de gorilles ?
Quel mystère, pardon ?
Oui, à élucider.
Mis à part la présence des femelles, il y a beaucoup de choses, je pense, à découvrir encore, parce que de plus en plus on étudie différents groupes, de plus en plus, on trouve des comportements différents. Mmh. Donc, probablement, ils ont encore des comportements culturels qu'il faut vraiment découvrir.
Merci, Shelly Massy. Merci beaucoup. Et j'imagine que vous allez y retourner bientôt sur le terrain à conseiller la lecture de votre livre intitulé Queen Kong, édité chez Albin Michel. Un petit clin d'œil à Suan Anen Leperlier, stagiaire de 3e, avec nous aujourd'hui. Références, bibliographies, liens vers d'autres podcasts en lien avec le sujet sont à votre disposition sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Puis à savourer aussi prochainement dans la collection Paroles d'hier pour penser demain, proposé par France Culture sur son site en ce mois de décembre. Le dernier grand entretien que nous avons mené avec Jeanne Goudal et à retrouver aussi dans le podcast Les Grandes Voix Internationales pour la Planète.